Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va démarrer tranquillement cette table ronde autour des éditions critiques avec Simon Pinel, critique, 5 ans cette année. C'est un bel anniversaire. On va essayer de vous faire connaître un petit peu mieux cette maison. Vous connaissez sans doute déjà, puisque c'est aussi une maison qui s'est bien imposée dans le milieu de l'imaginaire. On avait, ne serait-ce qu'hier soir pour la remise des prix, même s'il n'y a pas eu de récompense cette année, il y avait quand même plusieurs romans critiques qui étaient engagés dans les différentes catégories. Hein, 3, si je ne dis pas de bêtises, il me semble. Oui, voilà. Et voilà, c'est ça, exactement. Donc, on avait Lionel Davoust, on avait François Baranger chez les lycéens, et puis on avait donc Xavier Delot et Anne Fakoury pour American Fights dans la catégorie reine. Alors, qu'est-ce que c'est les éditions critiques, Simon Pinel ?
Bonjour à toutes et à tous. Donc, les éditions critiques ont été créées en octobre 2009. Alors, il faut savoir que, comme de nombreuses maisons d'édition, à l'origine, en fait, elle se base sur une librairie à Rennes, qui vend d'une part de la BD, manga, comics, et de l'autre de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique. Donc c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qu'on aime. Et puis les éditions critiques sont nées de la rencontre de trois personnes, donc d'Éric Marcelin, qui est en fait le créateur de la librairie critique. De Xavier Delot, donc qui est vendeur à librairie critique et aussi auteur, notamment d'American Phase, et de moi-même, en fait, qui faisait à Rennes un master édition. Donc, en fait, c'est cette rencontre entre nous trois qui est un peu cristallisée, parce qu'on voulait, on avait tous trois l'envie de faire quelque chose à Rennes, une maison d'édition basée dans l'imaginaire. Au début, on voulait, on n'avait pas, c'était pas encore le projet des éditions telles qu'on connaît aujourd'hui. On voulait publier un livre pour les 10 ans de la librairie. Sauf que vous me direz, octobre 2009 moins août 2010, ça fait pas 10 ans. Le projet s'est un peu accéléré et on a commencé, par Le Sabre de 101, en fait, qui était au début prévu en un tome. Mais d'un tome, on est passé à deux. Puis il y a quelqu'un qui est venu nous voir pour nous proposer une novella de fantasy. Bon, il est un peu inconnu sur le salon, c'est Lionel Davoust. Et puis, en décembre de la même année, on a reçu un manuscrit de polar. Il faut savoir qu'à l'origine, on voulait faire uniquement de la fantasy et de la science-fiction. Mais on a reçu donc ce qu'allait devenir le projet Bleiberg. Comme David nous avait dit qu'il y avait un tome 2 et un tome 3 qui allaient arriver, on s'est dit 3 tomes, c'est pas mal pour une collection. Donc on a essayé de créer une collection polar. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que les éditions critiques sont nées en tant que telles.
Alors avant de revenir sur ce coup d'éclat qu'a été la publication du projet Bleiberg, comment vous fonctionnez aujourd'hui ? Parce que c'est une petite structure critique.
À l'heure actuelle, on est 4 personnes. Au début, il y avait juste Eric, en fait. Xavier n'était plus à ce moment-là à la librairie. Et moi, j'étais stagiaire et je finissais mes études. Maintenant, on est 4 personnes. On est tous à la fois libraire et éditeur, parce que libraire un jour, libraire toujours, c'est un métier absolument passionnant, un métier absolument incroyable. Et je pense qu'on est... Il n'y a personne qui a vraiment envie de lâcher ce métier-là. Et puis de l'autre, après, on s'est structuré, c'est-à-dire qu'il y a Cathy qui s'occupe de la communication, Eric qui s'occupe de la gérance, Xavier qui propose pas mal de projets et qui en dirige certains, et donc moi-même qui sélectionne les textes et qui en corrige la plupart.
Ça veut dire aussi qu'il y a, on l'a bien compris, un essor qui s'est propagé aujourd'hui. Le catalogue critique, c'est combien de titres ?
Je ne sais même pas dire exactement. On va dire entre 40 et 50.
Mais, sur 5 ans, pour quelqu'un qui voulait partir en éditer un livre par an.
Ouais, c'est ça. puis on est revenu sur pas mal de choses. Au début, on voulait publier des romans courts. C'est plus tout le cas.
On en reparlera de ça.
Voilà. Il y a pas mal de choses qui se passent en 5 ans, c'est-à-dire qu'il a fallu apprendre à devenir éditeur. Je pense que c'est quelque chose qui a été important. J'ai beau avoir fait un master professionnel, je pense qu'il y a la théorie et la pratique, les choses qui en théorie ont l'air bien et qui en pratique le sont moins. Donc on a pas mal appris, on a dû se structurer, on a créé une nouvelle collection, on a abandonné malheureusement certaines idées, par exemple les recueils de nouvelles. On nous avait dit ça marche pas, on a essayé, effectivement ça marche pas. Donc voilà, je pense qu'on apprend tous les jours, c'est quelque chose que l'on sait, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on a quelques certitudes maintenant, mais voilà, on regarde aussi, enfin, on a notre œil de libraire qui nous permet de voir comment le marché évolue, et puis c'est important, je pense, à la fois d'avoir des coups de cœur qui vont peut-être pas dans le marché, mais qui vont, on pense, devenir des classiques ou des livres importants dans un certain genre, et puis de l'autre aussi, de regarder ce qui se fait en matière de couverture, de sous-genre, voilà, enfin, par exemple la fantasy urbaine, voilà. Donc on essaye aussi de regarder ce qui se fait ça et là.
Alors, on va pas forcément vous parler trop business plan, projet économique, etc. Mais enfin, il faut quand même un moment qu'on parle un peu de rentabilité aussi, quand même. Malgré tout, vous avez une liberté de choix éditoriaux qui est incroyable, finalement. Est-ce que je peux dire que vous publiez vraiment les livres que vous avez envie de publier ?
Ouais, ça, c'est quelque chose qui est très important. Si une année, on trouve que 4 manuscrits qui nous conviennent, ben on en fera 4 dans l'année. C'est quelque chose qui était déjà à l'origine. Après, il faut savoir qu'on a une liberté, mais aussi qu'on a une ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'à la création des éditions, on le sait, les littératures de l'imaginaire sont une niche au sein de la littérature, et nous, on voulait trouver une niche dans la niche. C'est-à-dire qu'entre le leader Bragelonne, les maisons d'édition historiques que sont Nemos, La Talente, Les Moutons Électriques, il s'agissait de trouver notre place dans le paysage éditorial français des littératures de l'imaginaire. Et de fait, on a chercher une ligne éditoriale, et pour nous, on était tous les trois fans de la collection Anticipation du Fleuve Noir, une collection vraiment, je pense qu'on peut dire, mythique et légendaire, et on a décidé de se placer vraiment comme des héritiers de cette collection. Ça peut se voir avec des rééditions, par exemple, de P.J. Giraud, qui était l'un des auteurs emblématiques, plus récemment Bruce, en fin d'année Louis Thirion aussi. Donc on a vraiment cette vocation de publier une littérature populaire. Mais après, populaire, ne faisons pas d'amalgame, ce ne veut pas dire mal écrit ou pas d'ambition. C'est-à-dire que la vocation première de la littérature populaire, c'est de divertir. Ce qui n'empêche pas, dans un second temps, de mettre des idées, des interrogations. Mais on veut des romans qui vous font rater votre arrêt de métro, ou vous voulez vous coucher à minuit, il est déjà 3 heures. Voilà, le but de nos romans, c'est vous voler quelques heures. Et donc voilà, toujours avec cette envie de faire la littérature populaire, la littérature française, de montrer que on a décidément rien à envier aux Américains, aux Anglais ou que sais-je encore.
Revenons donc au premier coup d'éclat de la maison critique, si on peut dire, puisque bon, peut-être déjà la volonté du dragon, c'était déjà au moins sur un plan peut-être critique et du petit microcosme ouais. Fantasy, c'était déjà un premier coup d'éclat, mais pour le très large public, finalement, c'est le projet Bleiberg.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'au départ, il faut savoir qu'on était, alors je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais on était autodiffusé, autodistribué, c'est-à-dire qu'on contactait nous-mêmes les libraires et on faisait les colis pour que le jour de la sortie, les libraires aient les romans. Donc c'était possible avec le Sabre de Sang, puis qui a plutôt bien marché, hein, il faut l'avouer, puis La Volonté de Dragon. Mais c'est vrai que le projet Bleiberg a tout changé. C'était vraiment inattendu. On a fait aussi une prise de risque, je pense, en créant une collection polar, alors que c'était pas vraiment dans notre idée au départ. Mais en novembre, c'était en novembre 2010, est paru donc le projet Bleiberg de David Escara, et on l'avait imprimé à 1500 exemplaires, ce qui pour l'autodiffusion, autodistribution est quand même un score assez élevé. Et on a envoyé plein de services de presse, comme ça se fait assez couramment. Et on envoyait ça en fait à la librairie La Griffe Noire à Saint-Maur-des-Fossés, où en fait travaille un certain Gérard Collard qui a eu un vrai coup de cœur pour le roman. Et il faut savoir que c'est un chroniqueur qui est très suivi parce qu'il a une chronique hebdomadaire dans le journal de la santé. Et il a été assez dithyrambique et Voilà, on a dû réimprimer. Ça nous a totalement dépassé. Donc le roman est sorti en novembre. On a fait 10 000 exemplaires tout seul, c'est-à-dire qu'on faisait les cartons, on tenait la librairie le jour et la nuit, on allait chez mon collègue et on faisait les cartons. Les nuits étaient vraiment courtes. Et arrivait donc Noël à la librairie, et là c'était, on s'est dit, oh, ça va pas le faire, quoi. Là on était déjà claqués, Noël arrivait, on n'avait même pas commencé, et on a décidé de contacter Harmonia Mundi. Donc là aussi on a fait selon, c'est pas mal notre expérience de libraire qui nous a aidés, parce que on connaissait bien Harmonia Mundi pour avoir travaillé avec eux en tant que libraire, et on les a contactés, ils ont accepté, et à partir donc de décembre 2010, on est devenu un éditeur diffusé et distribué par Harmonia Mundi, ce qui est toujours le cas à l'heure actuelle.
Est-ce que c'est arrivé, j'allais dire presque un peu trop tôt finalement pour vous, le succès du projet Bleiberg ?
Oui, tout à fait, parce que on ne va pas se plaindre non plus. Un succès, c'est...
pas dans le sens là que je dis,
un succès, c'est...
Ça vous a obligé à réagir d'un coup et à vous adapter.
Ouais. L'année 2011, je peux le dire maintenant, a été assez difficile parce qu'il a fallu se structurer très vite. C'est-à-dire que avoir un diffuseur, un distributeur, c'est travailler en amont, c'est-à-dire rendre des quatrièmes de couverture, des textes très tôt, travailler avec des illustrateurs très tôt. Et il a fallu vraiment se structurer. Et toute l'année 2011, pour nous, a été une vraie année de transition où on a dû apprendre très vite, sortir plus de livres aussi, parce qu'on a vu qu'il fallait exister en librairie. Et voilà, donc il y a pas mal d'impératifs qui se sont rappelés à nous. Et l'année 2011 a été une année de transition, mais aussi une année fantastique, parce qu'on a beaucoup, beaucoup appris cette année-là.
Et du coup, effectivement, l'aventure a pris de l'ampleur. Ça veut dire aussi que ça change par rapport au nombre de manuscrits qu'on reçoit quand on a eu un succès comme celui-là ?
Ah, totalement. Là, jusque-là, on recevait un manuscrit tous les deux jours. Là, désormais, on a 4-5 manuscrits par jour, d'où les longs délais d'attente pour certains. Donc, ça a changé pas mal de choses, mais ça nous a donné aussi l'occasion d'avoir des manuscrits qui nous ont plu, que ce soit Dominia Mundi, Point Zéro, par la suite. Donc, voilà, on a aussi été contacté des auteurs dans d'autres maisons d'édition parce qu'on voulait travailler avec eux. Voilà, on s'est structuré, on a agrandi notre catalogue, on avait moins de liberté d'une part parce que voilà, on était obligé de se conformer à un planning d'un diffuseur-distributeur, à une diffusion nationale, mais on avait plus de liberté parce qu'on pouvait publier plus de choses et c'est génial quoi, pour un éditeur de pouvoir le faire.
Alors moi je suis impressionné par la pépinière de nouveaux talents que vous êtes capable de dénicher depuis 5 ans. Il y a quelques auteurs que l'on connaît qui sont installés. Vous avez cité PJ Hero tout à l'heure, mais je vois, il y a Sylvie qui est là. Sylvie était déjà une personnalité connue du monde de la fantasy et de la science-fiction avant d'être publiée chez Critique. Mais alors, vous avez sorti derrière David toute une série d'auteurs qui sont en train de tracer vraiment leur sillon.
Ouais, en fait, j'avoue qu'on ne se rend pas vraiment compte parce que, vu de l'intérieur, il y a des coups de foudre. Et pour nous, il ne s'agit pas de voir si c'est un auteur confirmé ou un auteur débutant, parce que je pense que c'est le texte qui importe avant tout. On a un coup de foudre pour un texte. Et c'est vrai que ce soit Dominia Mundi, c'était un premier roman, un imposant premier roman, mais le coup de foudre a été immédiat. Pour Point Zéro, ça a été vraiment la même chose. Après, il a fallu se poser des questions financières, bien entendu, parce que c'est important, parce qu'il faut pouvoir... c'est pas tout d'avoir un coup de foudre pour un texte, il faut pouvoir le défendre après, en termes de communication, en termes d'impression. Donc, voilà, on a d'abord le coup de foudre, et puis après, on essaye de voir avec les auteurs, avec les directeurs aussi d'ouvrage, qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour que ce texte connaisse son public, et qu'un auteur inconnu, parce que c'était ça la question, trouve aussi son public, parce qu'il ne s'agit pas de publier aussi des premiers romans, il s'agit de les accompagner par le premier roman défendant, bien entendu, mais après, je pense aussi que, moi, ce que je dis toujours à un auteur qui rentre dans la maison d'édition, c'est que quand la porte est ouverte, il est là, il reste le temps qu'il veut, après... C'est lui faire confiance, c'est lui donner l'opportunité de faire un deuxième roman. Très souvent, nous, on signe le premier roman et le deuxième et le troisième dans la foulée sur quelques lignes parce que voilà, on sait qu'un auteur a besoin de confiance et je pense que c'est très important et que ça se ressent après dans les textes.
Alors moi, je me suis souvent demandé ce qui se passait quand on était une jeune et une petite maison d'édition et qu'on recevait un beau jour un manuscrit qui va déboucher sur un premier roman de presque 900 pages, extrêmement composite, publié par quelqu'un qui n'est absolument pas un écrivain parce qu'il est médecin légiste, s'appelle Antoine Traqui. Le roman s'appelle Point Zéro. C'est probablement ce que j'ai lu de mieux en 2013 ou pas loin, parce que c'est vraiment un bouquin qui m'a captivé et que j'ai dévoré malgré son épaisseur en 3 jours. Mais aujourd'hui, dans le monde de l'édition tel qu'il est, il n'y a pas grand monde qui peut miser sur un bouquin aussi épais d'un auteur totalement inconnu, totalement inclassable, parce que c'est impossible de dire de le ranger vraiment dans une case. C'est ça aussi votre boulot, c'est d'avoir du culot.
Je pense, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit le crowdfunding ou des choses qui viennent aider les éditeurs, mais moi, je pense qu'un éditeur, c'est quelqu'un qui prend un risque à l'origine, qui a un coup de cœur pour un texte et qui se doit de le défendre. Après, il faut une certaine stabilité financière pour pouvoir le faire, une certaine assise, mais il y a une prise de risque et elle est nécessaire, et je dirais même que c'est le rôle premier d'un éditeur de faire ce genre de choses. Alors c'est vrai que moi j'ai la chance absolument incroyable de travailler avec Eric Marcelin qui me soutient sur vraiment beaucoup de sujets de manuscrits. Quand j'ai reçu Point Zéro, la première chose que ça a été Deux Nuits Blanches, parce que voilà, 900 pages. Et puis après, j'ai été voir Eric et je lui ai dit, là il y a un manuscrit, il faut le publier. Par moment, il y a des évidences. Et même si on savait que ça allait être difficile, parce que donc en termes de signes, il fait 1 700 000 signes, on ne voulait pas le couper, parce que ce n'était pas possible, parce que ça nuisait au projet. Et on a décidé de le faire. Après, il y a aussi, on a été aussi voir un éditeur poche pour avoir ce soutien-là, parce que c'était un vrai risque financier. Imprimer un roman de 900 pages coûte très cher. Et en plus, on savait que avec les tirages de critiques, le roman allait être à 30 euros et on ne pouvait pas le vendre comme tel. Donc on savait que le prix, le seuil, c'était vraiment 25 euros. Donc on a été voir les éditions Pocket, on s'est assuré. Donc c'est vrai qu'il y a le coup de cœur, mais tout ce qu'il faut faire derrière aussi pour pouvoir le publier. Et c'est vrai qu'on est très fiers. Et Point Zéro va connaître une parution poche l'année prochaine aux éditions Pocket dans la collection Policier. Voilà, donc il a fallu faire pas mal de choses, et puis après on est absolument ravis parce que le roman aujourd'hui dépasse les 4 500 exemplaires vendus, donc il a trouvé son public.
Et il y a eu un vrai buzz, et il y a eu un vrai buzz public et critique, ce qui est effectivement comme ça avait été le cas pour Bleiberg auparavant.
Oui, en plus je pense que c'est vrai que quand il y a eu le succès de Bleiberg, une collection, on savait qu'il y avait le 2 et le 3 qui allaient arriver, mais il a fallu aussi trouver de nouveaux auteurs, et je savais que Point Zéro, c'est du thriller historique, avec donc une tendance un peu à la science-fiction par moment, mais il se plaçait vraiment dans la lignée du projet Bleiberg, donc il y a une vraie cohérence éditoriale. Et
tout le monde me dit, c'est le Clive Cussler français.
Oui, il y a de ça. Après, je pense que j'ai lu pas mal d'auteurs pour pouvoir travailler dessus, parce que j'ai découvert Dave Gibbons ou vraiment des auteurs américains, parce que c'est un genre très anglo-saxon, le techno-thriller. J'ai lu pas mal d'auteurs, et moi, ce que j'aime chez Antoine, c'est que je trouve qu'il y a... c'est assez facile comme image, je trouve qu'il dissèque le texte, il met énormément d'éléments, il met énormément de sa documentation à l'intérieur, et qu'il y a un côté très Jules Verne dedans aussi. Moi, je trouve plus que Clive Cussler, parce qu'on apprend une quantité de choses en lisant Point Zéro. Et voilà, pour moi, je trouve que c'est un très grand roman, un roman que je suis très fier d'avoir publié, mais comme tous les autres.
Je suis très content de l'avoir lu, moi. j'ai la suite pour cet été, puisque Mausolée est sorti, hein, n'oublie pas. qu'est-ce que représente un salon comme les Imaginales pour une maison d'édition comme Critique?
Cette année, c'est vrai qu'on a été particulièrement gâtés. Là, je remercie Stéphanie, Nico et toute l'équipe des Imaginales, parce qu'on a eu pas mal d'auteurs qui ont été invités. Et c'est vrai que pour nous, c'est aussi une consécration. C'est aussi un bonheur de pouvoir être là à vous parler, de présenter les éditions Critiques, de défendre nos romans. Pour nous, enfin, on était à Saint-Malo le week-end dernier. On est aujourd'hui aux Imaginales. Et pour nous, c'est faire acte de présence, c'est défendre notre catalogue, c'est montrer aussi que auprès de d'autres éditeurs, auprès de la presse, des journalistes, auprès des lecteurs aussi, avant tout même, je dirais, que les éditions Critiques existent et que on est accessible, qu'on est là aussi pour avoir leur retour, parce qu'avant tout, une maison d'édition existe par ses auteurs, mais aussi et surtout par ses lecteurs.
Et en général, quand il y a un stand critique sur un salon, faut y faire un tour. Hein. C'est rarement très mélancolique. Hein.
Ouais, c'est rarement très mélancolique. On raconte beaucoup de conneries.
Parlons de quelque chose qui est très très important et vous nous avez apporté quelques exemples. C'est qu'on a parlé du contenu là jusqu'à présent beaucoup, mais vous proposez aussi des beaux objets, des beaux livres. C'était important aussi ça dans le projet critique qu'il y ait un travail sur la maquette.
Ouais, c'est vrai qu'au début, je revois les premiers livres des éditions, hein, j'ai pas honte, mais je me dis, voilà, faut commencer, quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'on travaille avec des illustrateurs de talent, c'est-à-dire au début, on avait vraiment des impératifs financiers, et aujourd'hui, on a par exemple Xavier Collette pour American Faze, on a François Barranger, donc, qui est l'auteur de Dominion Mundi, et qui est aussi un illustrateur de très très grand talent. On a aussi Ronan Toulouat, qui a fait notamment les Lacères, voilà. Donc on travaille avec trois illustrateurs, parce que c'est des illustrateurs avec qui on peut échanger et qui lisent les textes pour certains, qui sont vraiment à l'écoute parce qu'ils savent qu'une couverture est là pour donner à la fois l'esprit de la maison d'édition, donc ce côté populaire, mais aussi donner l'âme du roman et tout ça avec certains codes, bien entendu, parce que la fantasy a ses codes, la SF a ses codes.
Mais c'est pas toujours le cas, la couverture n'est pas forcément toujours au service du livre. Or, chez vous, c'est vraiment toujours le cas.
Oui, parce que je pense que, enfin, nous on le voit en librairie, la couverture c'est 50% de la vente. Voilà, on va pas, c'est très 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 important. C'est vrai que d'avoir cette double casquette de libraire éditeur nous rappelle tous les jours à quel point une couverture est très importante pour défendre un projet. Et aujourd'hui, les couvertures de critique, on passe des fois un temps, je pense, peut-être plus important que d'autres éditeurs dessus, parce qu'on veut avoir le meilleur pour chaque roman.
Avec le regard des auteurs aussi, c'est vraiment collégial.
Oui, bien sûr, bien sûr. Les auteurs sont partie prenante. On échange, Sylvie pourra le dire, on essaye de collaborer au mieux parce que c'est un travail d'équipe. Et puis, parfois, par exemple, la couverture de Gueule de Truie, je crois que c'est l'illustrateur l'a envoyé et je lui avais donné un pitch rapide parce que le titre du roman étant compliqué, je voulais que la couverture illustre le roman et je trouvais qu'il s'appelle Gueule de Truie parce qu'en fait il a un masque à gaz et donc une gueule porcine. Et je voulais que la couverture illustre et adoucisse un peu le titre, ce qui est un titre quand même assez, assez fort. Donc parfois on a certains impératifs, bien entendu, mais pour le reste on laisse, je pense, pas mal de liberté à l'illustrateur. Et souvent on va demander aux auteurs s'ils veulent voir apparaître des choses sur la couverture. Après, c'est forcément l'éditeur qui a le dernier mot, mais parce que des fois, voilà, c'est aussi lui qui, pour des raisons commerciales, va choisir telle proposition plutôt que telle autre.
Par exemple, la route de la conquête de Lionel Davoust, on a sur cette couverture qui est signée François Barranger, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait.
On a ce fameux robot qui finalement est un peu le point central de la première nouvelle du recueil.
On entre
vraiment de plein pied dans l'histoire.
Tout à fait. Déjà, on voulait que ce soit le texte La route de la conquête qui soit illustré parce que c'est le texte le plus long et le plus important, je pense, du recueil. Ensuite, c'est vrai que son univers à Lionel est très proche par certains abords de Warhammer. Donc, on voulait aussi une couverture qui rappelle un peu Warhammer. François a fait une proposition absolument incroyable. Lionel m'a envoyé un mail, mais ce type est-il dans les esprits? et de fait, ça a été un vrai plaisir de travailler avec lui. Et puis là, c'est que si certains sont intéressés, je donnerai aussi la prochaine illustration de couverture du prochain roman de Lionel, où pareil, François a fait un travail assez incroyable. Voilà.
Et pour discuter de temps en temps avec Lionel, effectivement, il ne tarit pas d'éloges sur les couvertures de François Barranger. Qui est également en plus un excellent romancier, puisque son diptyque de Dominion Mundi est vraiment très très intéressant et également. Je vois là passer quelques auteurs qui viennent. Ils sont faillots ou ils sont vraiment sincères?
Je crois qu'il faudrait leur demander.
Hein. Alors vous êtes faillots ou vous venez. Viens.
Je vais juste venir témoigner vite fait. Je vais monter deux secondes.
C'était un peu le but aussi de la table ronde. Même si c'était pas marqué.
J'ai mis pas mal de bordel. Hein.
Lionel aurait bien voulu être là, mais malheureusement, il est en train de traduire. Enfin, malheureusement ou heureusement, parce qu'il en est très content, il est en train de traduire Robin Hobb sur une autre table ronde. Non, en fait, je pense que si les auteurs sont là, tout simplement, c'est parce que on a plaisir en général à travailler avec un éditeur qui défend nos textes, etc. Mais chez Critique, il y a vraiment une ambiance très particulière. C'est souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit avec Lionel et avec Philippe Ward, Critique, c'est la famille. C'est-à-dire qu'on se sent vraiment accueilli, respecté, entouré. C'est vraiment important. Ils sont toujours, toujours à l'écoute de ce qu'on a à proposer. En général, on sent aussi que quand on propose un texte pas tout à fait abouti ou autre, le retravail est toujours fait dans le sens du texte. Bien sûr, il y a aussi une visée commerciale parce qu'il faut derrière, après, que le livre soit... Mais c'est avant tout le texte et avant tout l'auteur. On se sent vraiment considéré. Ça, c'est important. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que les auteurs sont derrière la maison d'édition.
Simon, quand on a deux énergumènes qui arrivent avec le projet d'une série autour d'un personnage de détective vivant dans une Égypte uchronique, bizarroïde, étrange, où il se passe quand même des trucs assez spéciaux, où on se bidonne à peu près à toutes les pages. Voilà, comment on le reçoit quand on est éditeur, ça ?
À l'origine, tu vas me dire si je me trompe, c'était une nouvelle en fait. Et ouais. C'était la première, c'est là, était parue.
C'est ça s'intitulait Pas de pitié pour les pachas et c'était paru dans une revue qui a disparu maintenant. Ça y est, j'ai un trou. Mais enfin, elle était parue il y a très 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 longtemps, juste dans une revue. Et nous, on avait eu énormément de plaisir à créer cet univers un peu foutraque. Et tous les gens qui l'avaient lu étaient venus nous voir en disant oh là là, mais nous on en veut encore. Il faut allonger. Il faut en refaire d'autres. Et du coup, on a eu un deuxième texte qui a été écrit, puis un troisième texte, et puis on n'arrivait pas à lâcher l'univers. Et du coup, après, on a dit, bon, ben, on va articuler ça pour produire le premier tome. Et puis après, on...
Qui est un recueil de nouvelles, finalement.
Qui est, oui, mais où en fait, les nouvelles, on se rend compte qu'elles sont en séquence, puisque les enquêtes se suivent. Et donc, c'est pour ça que ça a été facile de les organiser et de développer pour arriver au bout du tome 1, à ce qui devienne le détective des dieux.
Ouais, moi, je pense aussi que ce qui m'a plu dans la série tout de suite, et c'est vrai qu'on a très vite discuté avec Sylvie de la possibilité de faire des romans, c'est que j'aime aujourd'hui, en tant que lecteur, avant tout, le mélange des genres. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez incroyable. J'adore la fantasy urbaine, par exemple, qui mélange le roman policier, enfin les codes du roman policier et du fantastique ou de la fantasy. Et dans la serre, en plus, y a le côté années 30, il y a le côté pulp, un peu, et puis avec un personnage qui rappelle un peu Sam Spade, c'est-à-dire, alors Sam Spade, c'est plutôt je tape d'abord et je réfléchis ensuite. La serre, c'est je me fais taper d'abord, je réfléchis ensuite. Donc, c'est pas quelqu'un de très courageux.
Ouais, mais c'était
elle
courageux.
Elle aime pas Sylvie quand on dit ça. Attention, elle aime pas. J'ai déjà fait engueuler.
C'est courageux quand même au niveau de l'édition, parce que ça, tu pourras peut-être en parler. Après, c'est tout ce travail de placement auprès des libraires. Et quand on a des objets un petit peu étranges, ben, c'est pas évident.
Et auprès des lecteurs aussi. Hein. Moi, j'en ai l'expérience en tant que blogueur et pour discuter un peu sur les réseaux sociaux. C'est vrai que voilà, quand on a envie de le vendre comme un roman noir, ce qui est quand même malgré tout le cas, dès qu'on ajoute que derrière il y a de la fantaisie dedans puis que il y a de l'humour qui est peut-être en oubliant souvent que les romans noirs classiques sont quand même souvent assez drôles et assez cyniques, mais d'un seul coup on sent que ça bloque tout de suite.
Ou le contraire, je racontais à Sylvie l'autre jour, on a une cliente à la librairie, elle a lu La Serre, et, alors elle réclame le tome 4 qui arrive bientôt, et elle nous demande à chaque fois, chaque semaine, un nouveau livre qui ressemble comme La Serre, et à chaque fois elle revient en disant « c'était pas bien ». Et du coup c'est assez drôle parce que ce mélange des genres lui a tellement plu qu'elle essaye de... C'est assez particulier en fait le mélange des genres, et elle essaye de trouver quelque chose qui l'accroche, et elle trouve pas, parce que c'est vrai qu'il y a... Je pense à un ton, vraiment un univers qui est très particulier, et c'est vrai que c'est assez étonnant, et c'est un roman aussi qui plaît beaucoup à des personnes qui n'aiment pas forcément la fantasy ou le fantastique, parce que c'est léger, parce que les personnages sont en couleur, parce qu'on rigole, voilà,
un
tout simplement.
Un côté cartoon.
Un côté très cartoon, ainsi avec un humour qui pourrait appeler Uderzo, ce genre de choses, avec du comique de situation, des jeux de mots à tire-larigot, ouais. Voilà, donc... Oui, le foireux. Donc voilà, donc, je pense que ouais, c'est un univers qu'on aime beaucoup et que donc, le tome 4 arrive en octobre cette année aux éditions Critique.
C'est aussi ce premier tome, un prix imaginal, du
tout
recueil
fait.
De nouvelles.
Tout à fait, tout à fait.
C'était un des premiers grands prix reçus par les éditions Critique.
Oui, au début, on a eu. Alors, je ne saurais pas dire parce que je crois que le Chant des âmes en polar avait eu un prix peut-être avant, mais je ne me rappelle plus. Hein, ça se joue quelques mois.
Frédéric Rapi.
Oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai qu'on est très content de voir là, cette année, trois romans aux Imaginales. Ça fait plaisir parce que être éditeur, je pense que c'est comme être auteur, c'est parfois un travail. Pas solitaire, mais on est entre nous, on parle, on essaye de faire le projet au mieux et de le voir figurer dans des sélections, de voir un succès commercial ou même rencontrer les lecteurs, c'est quelque chose dont on a besoin parce que pour regonfler pardon, les batteries et pour aussi savoir où on va, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire mieux encore.
Alors dans ces romans justement qui étaient en lice pour ces Imaginales, il y a le fameux American Phase qui lui aussi est un mélange de genres. Cette fois-ci, on est dans le roman mafieux. Et puis, on voit intervenir à l'intérieur tout un tas de créatures. Je l'ai dit en privé, je peux le dire en public. Je me suis énormément amusé à lire ce roman. Il y a plein de trouvailles, plein de choses très, très drôles. Il y a une scène absolument d'anthologie, de baston général, qui est digne d'un film de Tarantino, où ça part dans tous les sens. Et voilà. Comment est né un peu ce projet d'American Files?
C'est un peu similaire à la serre, c'est-à-dire que l'origine, c'est une nouvelle. Et c'est Xavier qui m'avait envoyé la nouvelle d'Anne Fakhoury, parce qu'au début, la nouvelle, ça avait été publié d'ailleurs par Sylvie dans l'anthologie des Imaginales. C'était Elle fait assassin, si Elle fait assassin, tout à fait. Et Xavier m'a envoyé, il m'a dit, il sait que j'aime la fantasy urbaine, beaucoup de personnes le savent, et il m'a dit, ça va te plaire. J'ai lu la nouvelle, j'ai appelé Anne, je lui ai dit, je veux un roman. Elle m'a dit d'accord si je le fais Xavier. Je dis top là, voilà. Donc la naissance de American Phase est assez simple et puis c'est vrai que voilà là aussi on a un mélange des genres. On est vraiment entre le film de gangster et le fantastique un peu La Pierre du Bois.
On est dans le Chicago d'Al Capone.
Hein, voilà. Oui en fait on suit quatre hommes de main qui travaillent pour Al Capone.
Quatre bras cassés,
on peut le dire aussi. Et il y a des meurtres. Et tout semble désigner Al Capone, sauf que pour une fois, Al Capone n'y est pour rien. Et il va demander à ses hommes de main de trouver qui est le coupable et de lui faire passer un très mauvais moment, je pense un moment assez définitif. Et voilà, on suit ces quatre personnages, assez haut en couleur, je pense là aussi, dans une version alternative de Chicago, où il y a la prohibition, mais aussi des êtres imaginaires et féeriques qui peuplent la ville.
Puisqu'il y a des fées monnayeurs, par exemple.
Des fées monnayeurs, tout à fait.
Qui ont tendance à inonder le marché avec des faits billets.
Ouais, des faits billets, tout à fait.
Donc, vous voyez que là encore, on est vraiment dans un univers très, très particulier et ça fonctionne vraiment. On a le droit de le dire que...
Et il y a une suite qui est prévue.
Voilà, pour ceux qui ont aimé, c'est la bonne petite nouvelle du moment. Et donc, l'association va se poursuivre entre Xavier et Anne pour prolonger l'aventure. Il y a un aspect dont on a... Alors, vous en avez dit juste un tout petit mot au tout début, mais je pense qu'on va y revenir aussi. C'est que vous êtes une maison d'édition installée à Rennes. Et il y a aussi le côté breton qui est très important aux éditions critiques.
Ouais, le breton est fier d'être breton. Ça, c'est quelque chose qui est évident.
Le breton est fier et ombrageux.
Ouais. J'aime beaucoup ma région, vraiment. J'adore la Bretagne. Et aussi, on avait cette envie de trouver des auteurs locaux, que ce soit Lionel ou Xavier Delot, ou David Cara aussi, qui habite du côté de Rennes. Là, en septembre, on a publié un auteur de polar aussi qui habite en Ille-et-Vilaine. On a publié aussi un recueil de nouvelles policières qui se passe à Rennes, dans les environs de Rennes. Et je disais tout à l'heure, je voulais défendre la littérature française, mais je veux aussi défendre ma région. Et je suis tout à fait favorable aussi à la littérature régionale ou au fait que certains auteurs de région méritent une diffusion nationale. Voilà, parce qu'ils ont du talent, parce qu'ils méritent d'être défendus.
Là encore, en respectant finalement les codes, est-ce que justement... est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour il y ait une espèce de Britain Face, par exemple?
Non, il y a déjà Alone de Thomas Géa, qui est un post-apo breton. Pour les 5 ans de la maison d'édition, je vous l'ai amené, on a fait un recueil qui s'appelle Brave of the Dead. Voilà, c'était juste parce que voilà, pour nous c'était vraiment c'était un clin d'œil, c'était le côté Bretagne et puis le côté hyper fun, c'est-à-dire il y a des zombies et puis il y a des survivants
qui vont tuer plein de zombies, et puis ça se passe en Bretagne, et on s'est dit, voilà, ce roman-là, pour les 5 ans de la maison d'édition, a été offert pour l'achat de 2 romans des éditions critiques, et voilà, quand on a vu ce roman, on s'est dit, c'est pour nous. Et c'est même nous, ce roman.
Alors, on se connaissait un petit peu parce qu'on discutait un peu par réseaux sociaux interposés, mais c'est la première fois qu'on s'est rencontrés sur ces imaginales. On a eu l'occasion de discuter un petit peu pour préparer tout ça. Et là, même depuis je vous écoute, j'ai l'impression d'avoir un grand gamin à côté de moi.
Ah, mais c'est exactement ça. J'ai plein de jouets et j'essaye de faire ça au mieux. Et puis après, c'est vrai qu'on essaye de faire ça le plus sérieusement possible, mais je pense qu'on peut faire ça avec le sourire. Et moi, vraiment, l'édition, c'était un rêve de gamin. Et j'essaye de garder cette fraîcheur parce que je pense que c'est important. Parce que parfois, l'édition se prend un peu trop au sérieux. Et c'est vrai que je pense que quand on va sur certains festivals, le stand critique n'est pas le plus malheureux.
Non, en général, il circule. Enfin, bref. Il y a tout ce travail aujourd'hui, finalement, il arrive à un point avec ses 5 ans. Normalement, 5 ans, ce n'est pas encore tout à fait l'âge de raison, mais on y est quasiment. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui pour la suite ?
Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais on a aussi une volonté de publier la science-fiction, notamment Laurent qui dirige une collection, donc qui a publié PJ Hero.
Est-ce que tu as encore un petit peu de voix, Laurent ? Est-ce que tu veux venir ?
Ouais, tu pourras peut-être venir présenter parce que ouais, je pense que c'est important. On essaye aussi de faire un côté patrimonial et je pense que c'est Laurent qui va en parler le mieux. J'adore le fleuve d'anticipation, je disais tout à l'heure, et on essaye avec Laurent et Xavier de trouver de vieux textes et de remettre en avant certains auteurs français qui sont un peu oubliés.
Laurent Genefort.
Et notamment des auteurs du fleuve noir, anticipation, donc avec un côté populaire revendiqué parce que la SF, c'est pas que Asimov, c'est aussi. C'est aussi PJ Hero, Tyrion, Andrevon, Pelot, mais il y en a plein quoi. Et qui disparaissent. Donc faut les absolument les.
C'est un côté patrimonial qui est très très important aussi. Hein.
Oui, et puis les textes sont bons, c'est ça qui compte en fait. C'est pas uniquement pour par c'est pas une question de nostalgie, c'est pas une question de c'est parce que les textes sont bons et que c'est injuste de les voir disparaître de la culture SF. Voilà, ça fait partie de la culture SF.
Alors, Simon nous expliquait que lui, effectivement, son créneau, c'est plutôt la fantasy. Ça veut dire qu'il s'est aussi délégué pour s'occuper de la SF.
C'est les deux.
Ouais, je crois que le catalogue SF est plus important que le catalogue fantasy. Hein. Moi, je suis un grand lecteur de fantasy, mais je suis aussi un grand lecteur de SF. Et c'est vrai qu'après, Laurent connaît beaucoup mieux que moi le fleuve noir anticipation. Et j'adorais la collection que Laurent dirigeait pour Bragelonne, les trésors de la SF. Et on voulait un peu reproduire ce même genre de choses.
J'ai failli couler Bragelonne avec ma collection. Je vais dire, c'est bien le diable si j'arrive pas à couler critique. Quoi.
Et ce travail, alors, ça consiste en quoi ? C'est vraiment de la réédition ? Il y a un nouveau travail qui est fait dessus ?
Alors, quand l'auteur est vivant, oui, puisque c'est le cas pour PJ Hero, où tous les textes ont été revus. Et harmoniser il y a eu un vrai travail de fond. Bon, on est vraiment très content quand même.
Quand on dit revue, ça veut dire quoi ? C'est le remettre un peu au goût du jour ?
Pas du tout. C'est conserver l'essence du texte, mais simplement, à l'époque, il y avait une telle. C'est des auteurs qui étaient prodigues, et donc il y avait c'était un peu des Stakhanovs de l'écriture. Souvent, les textes étaient relus une fois, mais voilà quoi. Et parce que c'est le fonctionnement du fleuve noir, c'était un fonctionnement quasiment de magazine. Donc on écrivait des textes, même à l'époque où j'étais, donc postérieurement à PJ Hero, on avait un contrat sur un titre. Donc on signait un contrat, on donnait le bouquin, 3 mois après le bouquin paraissait, et puis voilà, il y avait une sorte de roulement comme ça, qui donnait cette dynamique d'ailleurs du fleuve noir, c'est intéressant. Et, mais du coup, c'est vrai que des fois les textes n'étaient pas lissés, c'était un peu rugueux, quoi. Donc là, on a un peu poli, et puis aussi, il n'y avait pas aussi non plus, là, forcément, le fait comme ça de les rééditer par deux et dans une continuité, ça permet aussi de faire des liens entre les textes, de tout à coup ça a décanté. Et on peut voir les lignes de force et donc les mettre en relief. Et voilà. Donc on ne dénature pas du tout les textes. L'idée, c'est de conserver l'essence des textes, mais voilà, en essayant d'améliorer ce qui est améliorable, voilà, tout bêtement. Et puis on est très, enfin, on a été stupéfait par l'accueil, quoi, qui est incroyable.
Pégiro, c'est parmi nos meilleures ventes. Il a un public absolument incroyable, des lecteurs très très fidèles.
Je l'ai eu à Bagneux une fois en table ronde.
C'est impressionnant, la queue. Il y a des fans, on les a des fois au téléphone. C'est impressionnant. Et puis après aussi, il y a aussi le travail que Laurent fait sur la de postface, notamment de certains textes.
Oui, alors ça, c'est hérité un peu de, voilà, c'est hérité de la période Bragelonne, où je tenais absolument à faire des postfaces, parce que justement, les préfaces, je trouve que c'est ça casse un peu les pattes du lecteur. Et donc, de les mettre après, c'est, voilà, c'est pour ceux qui sont intéressés par l'auteur, ceux qui ont lu les textes, qui ont aimé et qui veulent en savoir plus. Eh bien voilà, il y a des postfaces plutôt charnues, où pour Bragelonne, je demandais vraiment à des spécialistes ou à des écrivains, c'était soit des spécialistes universitaires, soit des écrivains, soit les deux d'ailleurs, et des amoureux aussi des auteurs. L'idée, c'est pas de faire de la promo, parce que de toute façon, le bouquin, il est acheté, mais c'est un travail de...
Des sortes de contextualisation,
de mini-dictionnaire amoureux, voilà, c'était un peu ça.
En tout cas, j'imagine que ça touche aussi un nouveau public, finalement, parce que ces livres-là ont quoi, une trentaine ou une quarantaine d'années, à peu près.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
Et c'est toute une nouvelle génération qui découvre ces auteurs-là.
Oui, on peut annoncer le prochain, non? Ou... Ouais, voilà, il y a Thirion qui va apparaître en novembre. En novembre, voilà, avec alors en fait, là pour le coup, c'est souvent des postfaces inédites, mais là on a repris celle de Roland Wagner, qui était, enfin, le meilleur texte que j'ai lu en fait sur Louis Thirion, en fait. Donc j'ai dit, bah, autant reprendre celui-là. Et en plus de ça, le problème aussi, c'est que c'était, enfin, il y a une version qui est parue sur le net, qu'on peut trouver sur le net, mais elle est très incomplète. Donc du coup, on a remis la version, la vraie version intégrale, en fait. Voilà.
Elle aussi, le même travail de maquette qu'on évoquait tout à l'heure, de proposer aussi un objet qui soit un beau livre. Il y a un travail aussi sur les illustrations.
Ouais, ouais. Bah, j'ai pas le Béarbrus ici, mais il y a un rappel à une certaine fusée. Donc.
Oui, voilà. Bah, par exemple, c'est des petits. Voilà. On a conscience que c'est du patrimonial pour le coup. Et donc, on s'adresse. Et Béarbrus, ça a été une aventure. Vraiment une belle aventure.
Quoi. Moi, j'ai découvert l'auteur, je n'avais jamais lu avant. J'ai découvert l'auteur, parce que c'est vrai qu'on dit à Laurent, enfin, on laisse un peu carte blanche pour essayer, une fois par an, de remettre un peu en avant un autre auteur que Pégiro, parce que Pégiro, chez nous, fonctionne très bien. Mais moi, j'ai découvert Parle Robot, qui est un texte qui est à l'intérieur de l'intégrale, qui est absolument incroyable, d'un humanisme, mais assez flamboyant. Et quand j'ai lu ça, ça n'a pas pris une ride. C'est impressionnant d'humanité.
Est-ce qu'il y aurait dans le public des gens qui voudraient poser quelques questions à Simon, à Laurent, peut-être à Sylvie, enfin, plutôt à Simon si c'est possible? Vous êtes tous des lecteurs critiques? Ouais. Et vous êtes contents du résultat? Dites-lui, profitez-en, il est là. Ils sont timides aujourd'hui.
Non, mais je peux parler des prochains projets, si
ouais,
certains veulent.
Exemple, ouais.
En novembre, comme disait Laurent, il y aura l'intégrale de Louis Thirion. Je suis en train de lire les textes dans le train là, en venant. C'est assez incroyable, de l'excellence space opéra avec des races extraterrestres, enfin plein vraiment de bonnes idées.
Ah bah voilà, j'ai discuté avec des gens cette semaine qui cherchaient des space op. Ouais. Il y en a un qui arrive novembre.
Novembre. En octobre, on aura.
Oui, Karine, c'est toi.
En octobre, on aura le quatrième tome de La Serre que l'on a évoqué avec Sylvie. Et sinon, nous allons refaire un tirage, parce qu'il a été très très bien reçu par le public, donc avec une couverture rigide. Ce sera le premier tome d'une trilogie qui se passe à Hong Kong. On suit un détective privé. J'aime beaucoup la fantaisie urbaine, je l'ai déjà dit. Qui aussi est un spécialiste du kung-fu. Et voilà, donc on est à Hong Kong, il y a plein de références aux histoires de fantômes chinois et au kung-fu. Et il y a un univers qui est absolument incroyable, avec donc ce mélange de kung-fu, de romans policiers et de fantaisie urbaine. Et c'est vrai que c'est un projet sur lequel on compte beaucoup. Et il y aura 3 tomes et chaque fois un tome qui paraîtra en octobre, donc octobre de cette année, puis octobre 2016 et 2017.
Et puis il y a le Davoust.
Et voilà, j'allais venir. Pour nous, le gros temps fort de cette année en fantasy, c'est le roman de Lionel Davoust. C'est un roman d'un million de signes, un roman d'une ambition assez incroyable, qui me rappelle par certains côtés un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Brandon Sanderson, c'est-à-dire qu'il prend une idée, il la tord dans tous les sens, il écrit un roman où il y a une ville où tout s'achète, où tout se vend, c'est un immense marché. Et à l'intérieur, on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui a passé 8 ans dans les galères parce que sa famille avait quelques problèmes financiers et qui va essayer de redorer le blason de sa famille. Il y a plein de personnages incroyables, d'une complexité, d'une épaisseur que je trouve absolument géniale. Il y a une ville qui est le personnage principal, je pense, du roman. Il y a des rebondissements, par exemple, comme le fait très souvent Sanderson, où... Enfin, moi, je ne sais pas trop en dévoiler. et puis voilà. Donc, si certains veulent après parler, je serai sur le stand. François Baranger n'est pas là, donc. Ouais, c'est dans le même univers qu'Evan Hegyr, mais je pense aussi que c'est la porte d'entrée. Peut-être que certains attendent parce que voilà, je sais qu'en fantasy, les gens aiment bien les gros pavés. Là, ce sera un gros pavé et c'est une bonne porte d'entrée vers l'univers d'Evan Hegyr où se déroulent les nouvelles de la route de la conquête ou le court roman La volonté du dragon.
Et puis un certain nombre d'autres nouvelles qui étaient parues, puisqu'elles ne sont pas toutes dans la conquête, ouais. Dans la route de la conquête, mais c'est vrai que c'est l'univers que Lionel construit patiemment.
Ouais. Et qui va continuer à construire à critique.
Et donc là, avec cette fois-ci, un roman visiblement bien épais déjà.
Ouais.
voilà, on va arriver au terme de cette rencontre. Comme l'a dit Simon, vous pouvez éventuellement aller lui poser quelques questions sous la bulle du livre dans quelques minutes, mais vous l'aurez compris, voilà, ça est une maison d'édition qui en 5 ans a su s'imposer, trouver sa place, trouver son rythme, trouver sa philosophie aussi, vous l'aurez compris, hein, c'est un état d'esprit critique également, je pense pas me J'espère. Tromper en disant ça. Et puis c'est un catalogue où il fait bon puiser, voilà, je le dis tranquillement, moi je suis un fidèle des éditions critiques depuis presque le début, finalement, je me rends compte. et à chaque fois, je prends énormément de plaisir à lire ce que vous nous proposez. Et n'hésitez pas, il y a également tous les auteurs critiques qui sont présents. On a parlé de Sylvie, de Laurent, mais on a aussi Lionel, Laurent Weil, Anne Facoury, Xavier Delot, Thomas Géa, etc.
Il y a du monde.
Donc n'hésitez pas, allez les rencontrer, allez discuter avec eux. Ceux qui n'étaient pas à la table ronde, peut-être parlez-leur également pour qu'on confirme un peu ce qui a été dit sur tout ça. Et puis, nous, on va souhaiter une très, très longue vie aux éditions critiques et en espérant vous retrouver régulièrement aux Imaginales tous les ans.
Ce sera le cas. Merci à toutes et à tous.